Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Je suis heureux d'être en compagnie de Pierre Lelièvre qui revient d'une grande aventure en terre africaine puisqu'il a participé avec Johan Vincent au 16e 4L Trophy, donc une course avec que des 4L qui a eu lieu à travers les montagnes de l'Atlas au Maroc. Bonjour Pierre.
Salut Louis.
Alors c'était une grande aventure cette histoire de 4L Trophy ?
Superbe aventure. Plein de grands souvenirs, des moments fabuleux et que du bonheur.
Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous faire un récapitulatif de tout à partir du début ? Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au niveau de la préparation, au niveau de la course, etc. Tout ?
Alors on a pensé le projet, enfin on a souhaité participer, c'était il y a un an. C'était au mois de mars 2012, c'est des amis de Lyon qui le faisaient, qui s'étaient déjà inscrits et qui nous ont motivés pour le faire, qui nous ont parlé. Nous, on connaissait un petit peu, mais sans s'être vraiment impliqué ou avoir pris connaissance des détails. Et puis, ils nous en ont parlé, puis on a décidé de le faire parce que c'était un beau projet, puis une aventure humaine qui pouvait mener à quelque chose de sympa. Donc, on s'est dit, bah, allez, on se lance. Donc, la préparation a duré une bonne année, enfin, depuis mars dernier. Et ça s'est fini là, la semaine dernière. Donc voilà, donc la préparation, ça consiste à savoir à quoi correspond le 4L Trophy, donc se renseigner, trouver des financements parce que ça correspond à pas mal d'argent pour arriver jusqu'au Maroc. Donc que ça soit l'inscription, l'achat de la voiture, la préparation, tout ce qui est frais de communication, donc flyers, plaquettes, et puis essence et péage. Donc il y a pas mal de frais généraux. Donc ça dépend des équipages, il y a des budgets qui vont de 6 000 à 18 19 000 euros.
Et vous ?
Et nous, on est à peu près à 8 000, 9 000 euros maxi. Donc, il a fallu trouver des financements donc auprès d'entreprises privées. Il y avait trois sortes de partenariats. Il y avait le don, donc directement sans aucune contrepartie. Et il y avait aussi le partenariat financier, donc avec un encart sur la voiture. Donc, il y a pas mal d'entreprises du DIY qu'on souhaitait acheter pour nous aider un encart et qui avaient leur logo de l'entreprise sur la voiture. Et sinon, il y avait les partenariats en nature, donc par exemple, que ce soit pour les garagistes ou assureurs, par exemple.
Oui, et puis il faut voir que sur votre voiture, il y avait aussi des autocollants d'associations ou de personnes morales qui n'avaient absolument rien donné. Je pense à RDWA, puisque voilà. Nous étions sur le capot.
Oui, mais c'était en soutien, donc c'était pour soutenir aussi Radio DIY.
Voilà. D'accord. Donc, et après, il faut une voiture quand même. Est-ce que vous aviez une 4L ?
On avait, à la base, on n'avait pas de 4L, donc on en a acheté une. Ça s'est révélé être une mauvaise expérience parce que la personne qui nous l'a vendue nous a un peu arnaqué. Puis nous, voilà, enfin, on lui a fait confiance. Et donc, du coup, on a racheté une deuxième voiture en août dernier, une deuxième 4L qui, elle, a tenu la route et qui tient toujours la route d'ailleurs.
Vous avez fait beaucoup de frais dessus ?
On a changé quelques pièces, après beaucoup de frais. Par rapport à d'autres équipages, non. Après, par rapport à une voiture en très bon état, j'en connais un petit peu quand même.
Alors pour les connoisseurs, qu'est-ce que vous avez changé ? Le carburateur ?
Non, on a changé quoi ? Pompe à eau, pompe à essence, filtre à carburant. Voilà, des pièces un peu fragiles, et histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème dans le désert. Voilà. Cylindre, bloc, boîte, voilà.
Vous avez mis des pneus neufs, non ?
On a mis des pneus terre, ouais, neufs. Voilà, donc ça nous a bien aidé. On n'a eu qu'une crevaison au final, donc ça allait. Mais on n'a eu aucun problème, que ce soit dans le sable ou sur les pistes.
Est-ce que c'est comme le Paris-Dakar, il faut toute une assistance technique avec un gros camion derrière vous ? Ou est-ce que vous aviez dans votre coffre un certain nombre de pièces de rechange au cas où, bloqué dans un WED, vous soyez obligé de démonter le moteur ?
Alors, c'est pas aussi exigeant que le Paris-Dakar, parce que ça s'adresse surtout à des professionnels, puis des amateurs confirmés. Là, le 4L Trophy, c'est pour des étudiants, donc ça reste quelque chose de... pas de simple, mais de, on va dire, d'assez facile, entre guillemets. Alors, on avait une boîte à outils et puis des pièces de rechange dans la voiture au cas où. Et on n'avait pas d'assistance personnelle, donc on n'avait pas de mécano qui nous suivait tout le long. Il y avait par contre une assistance technique et mécanique organisée par le RAID, mise en place par le RAID, par l'organisation, et qui était là pour nous aider si on avait un problème pendant la course ou le soir au bivouac.
Oui, parce que peut-être qu'on pourrait préciser ça, si je me rappelle bien, ce n'est pas une course de vitesse.
Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de navigation, d'orientation. Donc le classement à chaque fin d'étape et le classement général sont faits par rapport au nombre de kilomètres parcourus. Donc l'organisation a préparé les étapes en amont, a identifié le nombre de kilomètres qu'il fallait pour réaliser l'étape. Et c'est à chaque équipage de faire le bon kilométrage en suivant le roadbook pour arriver avec le moins de kilomètres possible.
Vous êtes dans le désert, non ?
On est dans le désert. Donc, il y avait des étapes où c'était sur route, donc sur du bitume. Donc là, c'est assez difficile de grappiller des kilomètres par rapport au roadbook. Mais ce n'est pas des étapes qui prenaient en compte, principalement pour le classement, c'était des étapes sur piste et dans le sable. Donc là, les itinéraires sont multiples, on peut couper. Après, à nous de ne pas nous perdre et d'essayer de suivre assez bien le roadbook. Quoi. À la boussole, à la carte et avec le roadbook.
GPS interdit.
GPS interdit et tout ce qui est aide, que ce soit par satellite ou radio, interdit.
C'est compliqué de ne pas se perdre dans le désert ou dans la savane ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'était comme type de relief ?
De relief, alors il y avait pas mal de montagnes. Donc, on était dans le Moyen Atlas marocain, donc c'est pas de la haute montagne. On montait jusqu'à 2000, je crois le maximum c'était 2060 mètres d'altitude. Donc c'est pas de la très haute montagne, c'est de la moyenne montagne. Généralement c'était sur route, en goudron. Après les étapes sur piste, c'était, je pense on était plus bas. Et c'était que du caillou, du sable. Enfin voilà, un environnement désertique sans goudron et sans végétation. Quoi. Et il y avait des parties où il y avait que du sable, donc des ouèdes, ce qu'on appelle des ouèdes, qui étaient les parties plus technique sur chaque étape.
Est-ce que c'est facile de se perdre dans ce genre d'environnement ? Si vous êtes classé au nombre de kilomètres parcourus, c'est bien qu'il est possible d'en faire plus ou moins.
Ah, on peut en faire plus, ouais. Et on peut dévier complètement de si on suit mal le roadbook ou si on se trompe avec la boussole, on peut complètement se perdre. Après, vu qu'on était 1000, on va dire grosso modo 1500 équipages, on voit toujours des 4L dans le désert. Donc si on en suit une, on peut très bien se perdre. Si on en suit une autre, on peut très bien y arriver. On peut toujours se perdre maintenant, si tu suis bien le roadbook à la lettre et que tu sais utiliser une boussole, il n'y a aucun souci. Quoi. Parce que les pistes restent tracées, il y a certains endroits où les pistes sont tracées, donc il n'y a pas de souci à se faire.
Mais ceci dit, il y a quand même un intérêt, parce que sinon ça ne se ferait pas. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes classé au nombre de kilomètres, c'est qu'il doit être possible de faire vraiment plus ou moins bien.
Oui, en fait, y a le kilométrage qui est dicté par le roadbook, c'est une indication. Après, l'organisation accepte moins de kilomètres, après tout dépend, si c'est 20 km de moins sur une étape de 90 bornes, ils vont pas être d'accord. Parce que soit on aura trop coupé, soit on n'aura pas fait l'étape en entier. Après s'il y a 3, 4, 5 km de moins, c'est pas gênant. Parce qu'on aurait très bien pu couper et voilà. Après il y en a qui ont fait beaucoup plus de kilomètres que prévu et qui se retrouvent au final assez bas dans le classement. Quoi.
Oui parce que tu ne l'as pas encore dit, je ne l'ai pas encore claironné, mais vous avez pointé pas loin des premiers.
On a fini 10e au classement général, ouais. Alors étonnamment, parce que nous, en fait, on était parti plus en touriste pour découvrir et puis pour profiter sans aucune ambition. Et puis au final, au bout de la première ou la deuxième étape, je sais plus, on était 5e au général. Donc on était assez contents, c'était une satisfaction. Et puis on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas essayer d'aller jouer le haut du tableau. On n'y est pas arrivé, mais... Enfin, on n'y est pas arrivé. On n'a pas fini dans les 5 premiers, mais... Mais 10e, ça reste une belle place sur plus de 1300 équipages qui terminent quoi, au bout des 5 jours, donc c'est cool. Ça fait plaisir, c'est une gratification en plus. Quoi.
Est-ce que vous avez eu le temps de faire du tourisme ? Parce qu'une 4L, l'avantage c'est que ça va pas si vite que ça.
Ça va pas si vite que ça, c'est vrai. On est limité après, soit par les limitations de vitesse du pays, soit aussi par la voiture surtout. Et on a fait du tourisme, enfin... Pas vraiment, on a découvert des beaux endroits, après est-ce qu'on a eu le temps de s'arrêter et de profiter ? Non, parce que les étapes étaient quand même assez longues, ça prenait du temps dans la journée, et puis il ne faut pas oublier qu'on était tous ensemble, donc voilà, après il y avait des heures à respecter, arriver au bivouac, donc voilà. Mais on a vu des super paysages, des endroits magnifiques, et qui sont, enfin pas neufs, mais...
Virginaux.
Voilà.
Quand vous arrivez au bivouac, là, vous sortez votre tente et là, c'est une espèce de grand rassemblement
d'étudiants. Voilà.
Hétéroclites, donc ça devait être marrant le soir, non ?
Ouais. Alors, quand on arrive au bivouac, donc à la fin de l'étape, avant de s'installer, on passe devant les commissaires de course qui relèvent notre compteur kilométrique. On passe sous un portique RFID pour savoir, pour qu'eux sachent qui est arrivé et qui ne l'est pas, pour engager des recherches s'il y a des équipages de perdus. Et ensuite, après, on est libre. Donc, on arrive sur le bivouac. Donc, il faut savoir que le bivouac, c'est hyper bien organisé. Donc, il y a tout un endroit où il y a l'organisation. Donc, il y a des tentes, là où on nous sert les repas du soir. Il y a le PC médical, le PC technique. Il y a les citernes, les camions citernes d'essence. Donc, voilà. Et après, nous, on a une zone qui est une très grande zone où tous les équipages s'installent. Donc, ils garent leur voiture. Et on installe notre tente à côté. Puis voilà, généralement, on se mettait avec deux ou trois autres équipages, des amis ou des gens qu'on a connus là-bas. Et puis on s'installait tranquillement en fin de journée pour passer la nuit, et voilà, profiter de la soirée.
Et en février, il fait froid dans la classe ?
La journée, ça va. La journée, il faisait 20-25 degrés avec du beau temps ou couvert, donc ça allait, donc ça, il n'y avait pas de souci. Après, la nuit, c'est vrai qu'il fait un peu plus frais, ouais, parce qu'on est en moyenne montagne, je pense qu'on est descendu pas loin des 2 degrés à certains moments. Et puis la nuit aussi, le vent se lève et on a subi, entre guillemets, quelques tempêtes de sable. Donc voilà.
Et la mécanique là-dedans, tu me dis que vous étiez 1500 au départ et 1300 à l'arrivée, donc il y a eu quand même 200 4L qui ont...
Non, un peu moins de 200, il y en a eu, je ne sais même pas, une centaine. Enfin, c'était 1448 partants et il y a 1391 qui finissent. Donc on va dire 60-70, quoi, qui n'ont pas fini, quoi.
Casse moteur ou...
Il y a eu des casse moteurs, après il y en a qui ont cassé le châssis, il y en a qui ont eu des accidents de la route, donc obligatoirement ils ont eu du mal à finir. Et puis voilà, il y a eu des exclus aussi.
Ils ont triché, ils ont essayé de...
Il y en a quelques-uns, enfin quelques-uns, je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient triché. Ouais. Donc voilà, que ce soit au niveau moteur, changé le moteur ou qui avaient triché sur les étapes.
Alors, ils ont mis un turbo sur la 4L.
Ouais, ou ils ont juste changé le moteur, mettre un moteur d'R5 Alpine, ça s'adapte et c'est beaucoup plus puissant. Donc. Mais c'est interdit. Vu que c'est pas une course de vitesse, c'est un peu con. Après, c'est marrant parce que c'est pratique sur l'autoroute pour aller à 130 au lieu de 110, quoi. Mais c'est vrai que ça dénature un peu le projet qui est pas du tout basé là-dessus et qui, puis ça serait bien d'avoir tous, enfin c'est mieux d'avoir tous la même voiture, et meilleure égalité, quoi, équité.
Alors si tu devais ressortir de tout cela un souvenir particulier ou une ambiance, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce 4L Trophy?
Un souvenir particulier, je pourrais pas, parce qu'on a vécu tellement d'émotions par jour, que ça soit du bonheur, un peu d'énervement pendant les étapes avec son coéquipier ou voilà, donc il y aurait pas de souvenir à ressortir. Maintenant, c'est un ensemble et ça fait que l'aventure est belle et fabuleuse, parce qu'on a vécu, enfin que ça soit le bivouac le soir, les apéros, la journée en course avec les autres, l'entraide, la solidarité, et puis les rencontres avec les Marocains ou les enfants marocains. C'est une belle expérience, et puis c'est plein de, comme je disais, c'est plein d'émotions et plein de découvertes qui fait que c'est un ensemble, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a les beaux paysages, il y a un endroit qui est fabuleux. En arrivant sur, que je ne me trompe pas, sur Merzouga, il y a l'oasis de la Ziz. C'est une superbe palmeraie au fond d'un canyon et c'est splendide. Sur une dizaine de kilomètres, on descend, on longe le canyon et il y a une palmeraie immense. Et là, il y a des villages, il y a plein de petits villages qui sont alignés le long de la route. Et les gens cultivent sous la palmeraie. C'est tellement fertile qu'ils cultivent et c'est un paysage magnifique. Voilà.
On a souvent reproché à des organisations comme Paris-Dakar d'être un petit peu des milieux fermés qui ne s'ouvraient pas tant que ça sur la réalité des pays qu'ils traversaient. Et là, tu m'as parlé un petit peu du fait que vous aviez pu un tantinet rencontrer des Marocains, des enfants marocains. Est-ce que le 4L Trophy est ouvert quand même sur la réalité du Maroc ?
Ouvert, je pense, un minimum, parce que, enfin voilà, après, on est dans un autre pays, on arrive chez eux un peu, enfin, je veux pas dire colonisateur, mais on arrive pour une période, pour une semaine. C'est vrai que c'est peut-être gênant. Moi, je suis arrivé, c'est un peu gênant d'arriver chez les gens, d'utiliser un terrain de jeu, entre guillemets, qui est le désert, et de profiter sans rien donner ou sans être chaleureux ou d'avoir un remerciement pour ces gens-là, parce qu'on arrive chez eux et on les dérange peut-être un peu. Après, nous, on a discuté avec des berbères qui vendaient des objets sur le bivouac, enfin voilà, ou qui venaient nous voir. Et eux étaient très heureux parce qu'ils nous disent que déjà, ça fait voir du monde, même s'ils ont pas mal de touristes à l'année, des touristes, enfin que ce soit des retraités en camping-car, enfin voilà. Donc, ils étaient contents. Alors après, est-ce que c'est qu'au niveau business ? Je sais pas. Je pense que même après, vu qu'on amène du matériel humanitaire, c'est vrai que ça leur permet, enfin ça permet aux enfants d'aller à l'école. Il y a eu la construction l'année dernière de 3 salles de classe, cette année il y en aura 4.
Ah, donc il y a un volet humanitaire avec 4L Trophy.
Il y a un volet humanitaire, ouais. Donc 3 salles de classe l'année dernière pour l'édition 2012, la 4 avec bloc sanitaire et tout, donc voilà, ça permet à des centaines d'enfants d'aller à l'école Et généralement, ils sont dans des villages éloignés où il n'y a pas d'école, donc il faut qu'ils fassent le trajet. Ça permet de raccourcir les trajets. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le désert, enfin même si on ne sait pas le désert à proprement parler, c'est des zones assez désertiques et les villages, il y a pas mal de villages et ils sont tous éloignés des centres où il pourrait y avoir des écoles ou des hôpitaux ou des dispensaires. Donc ça permet de rapprocher aussi les enfants d'une éducation scolaire et générale. Et puis après, c'est vrai que c'est la découverte aussi, parce que les enfants qu'on a croisés, il y en a partout sur le bord des routes, ils sont partout. Ils sortent, tu sais pas d'où ils viennent, et il y a un village à côté, ils font 10 km à vélo ou à pied pour te voir sur le bord de la route, quoi. Et ils sont contents parce qu'ils rencontrent d'autres personnes, et puis ils voient des voitures qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude de voir. Enfin, c'est tout un... c'est tellement quelque chose d'important, le 4L Trophy, que je pense que ça les intrigue aussi, puis ça les... ils sont contents de nous voir aussi.
Il n'y a pas ce côté un petit peu snob, richissime, avec des super voitures aussi, parce que le 4L, c'est quand même une voiture...
populaire, ouais, c'est voilà. Populaire. Ouais. Non, je pense pas que... Enfin, après, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas heureux de nous voir ou pas heureux qu'on soit là. Nous, on ne l'a pas remarqué, donc voilà. Maintenant, quand on traverse des villages ou des zones où il y a des enfants, c'est vrai que tout le monde nous fait coucou, nous aussi, et c'est quelque chose qui est assez sympa, quoi.
Tout à l'heure, tu as dit que le 4L Trophy était une course réservée aux étudiants. C'est voilà. Exact.
C'est à destination des étudiants. Maintenant, il y en a qui ne sont pas étudiants qui l'ont fait. Après, c'est sur demande de dérogation. Donc, ça s'adresse aux personnes qui ont le permis, donc de 18, je vais dire 28 ans, mais après, il y a peut-être des gens un peu plus âgés qui l'ont fait. Tout dépend des dérogations et de son statut, si tu es étudiant ou pas, et de tes motivations aussi. Je pense que si tu n'es pas étudiant et que tu as plus de 28 ou 30 ans, faut montrer pourquoi tu as envie de le faire. Maintenant, nous, c'était pas notre cas, donc nous, on était étudiants. Voilà, il y avait majoritairement que des étudiants, parce que tous entre 18 et 25 ans, je pense. Donc voilà.
Et donc, tant qu'il y aura des 4L, cette manifestation existera.
Je pense, ouais. Tant qu'il y aura des 4L, ouais.
Parce que là, ça doit les fatiguer quand même, les 4L.
Ça, ouais, ça les fatigue un petit peu. Après, il faut en prendre soin, parce que ça reste une voiture assez fragile, même si la mécanique est assez simpliste et que voilà, c'est juste un châssis avec une caisse et puis un moteur, quoi. C'est pas une voiture comme aujourd'hui avec plein d'électronique et tout. Ça reste fragile, il faut l'aménager surtout sur la descente France-Espagne et au Maroc. Après, bon, tu te fais un peu plus plaisir parce que c'est comme un terrain de jeu. Enfin, tu te fais un peu plaisir dans le désert, tu prends les petites bosses, puis il y a toujours des cailloux. Donc voilà, elle ramasse sa voiture. Mais bon, il faut quand même faire attention, quoi.
Donc ça veut dire que dans une 10-15aine d'années, toutes les 4L auront 15 ans de plus, elles auront peut-être de plus en plus de mal à accomplir ce genre de prouesse.
Ouais, c'est possible. Et puis il y en aura peut-être aussi de moins en moins des 4L, parce que c'est une voiture dont la production a été arrêtée en 92 ou 13. Donc il y en a toujours chez les particuliers, des gens qui les gardent, en plus ou moins bon état. Après, je ne sais pas si le raid... Enfin, après, ce n'est pas de mon ressort, mais est-ce que dans 15 ans, le 4L Trophy existera toujours? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que les voitures s'abîment et puis au bout d'un moment, voilà. Là, ça fait déjà 16 ans que ça dure. Est-ce que ça peut durer encore 15 ans? Moi, je l'espère d'un côté, parce que c'est une belle aventure.
Que tu recommandes à tout étudiant qui a envie de se payer une bonne tranche d'aventure.
Voilà.
Pas si cher que ça, en fait.
Non, c'est un an de galère parce qu'il faut trouver de l'argent, parce que c'est pas évident en faisant ça à côté de ses études, parce que ça demande du boulot quand même. Mais on va dire, en tout et pour tout, ça dure 2 semaines avec la descente et la remontée France-Espagne. Une semaine au Maroc, et c'est que du bonheur, quoi. Et moi, j'ai aucun regret. Je me suis dit, on a toujours des attentes. On se dit, ça va être comment, on va se faire plaisir et tout. Mais quand tu reviens, t'es sur l'autoroute, dans ta voiture, tu fais, putain, mais j'ai pas envie de rentrer, quoi. Et je passerai encore bien une semaine, là, avec tous les copains et à se faire plaisir, quoi. Donc voilà, après, c'est une semaine. C'est peut-être aussi pour ça que c'est tellement bien. C'est parce que c'est court, c'est intense. Et il faut en profiter. Et si vous avez l'occasion de le faire, moi, je vous le conseille, quoi.
Alors, faut s'adresser où alors? Faut
s'adresser où? Faut aller sur internet, le site du 4L Trophy. Alors, généralement, les étudiants sont au courant parce que dans les facs ou dans les écoles, il y a les bureaux des étudiants qui peuvent faire un peu de pub et puis même l'organisation fait de la pub pour ça. Après, si jamais vous ne voyez pas de pub pour ça, vous pouvez aller sur le site du 4L Trophy et puis il y a tout ce qu'il y a, tout est marqué pour s'inscrire et voilà.
C'est international?
C'est européen, donc il y avait quelques équipages de Belgique, des Anglais, des Italiennes et des Espagnols. Donc, ouais. Et puis après le reste de Français, il y avait peut-être d'autres nationalités. Après, j'ai pas rencontré tout le monde, honnêtement. Sur 3000 personnes, c'est difficile.
D'accord, bah merci Pierre de tous ces renseignements et
merci, oui.
Superbe aventure qui t'a fait apparemment chaud au cœur.
Vraiment.
Et donc, bon, bah, pour les étudiants qui nous entendent, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines. Tant qu'il y a de la 4L, profitez-en.
Profitez-en, ouais. Puis c'est marrant, franchement, c'est marrant la 4L. C'est vraiment sympa.
Très bien. Et bien, Pierre, à bientôt.
À bientôt, salut Louis.
Au revoir.
Interview.